les Français, à force d'immigration incontrôlée.
Claude Guéant en chevalier blanc de la laïcité.
Le gouvernement déploie du coup 16 000 hommes sur le terrain dès ce
soir. Qu'est-ce que la faillite de la Grèce?
Il choisit de vivre à crédit, il faut qu'il paye.
Attention, la Belette est sociologue. La Belette est socialisée. La Belette est même sociable. Est-ce pour autant qu'elle est humaniste, d'autant qu'elle est socialiste? Écoutons-la.
Le cri de la Belette par Jean-Pierre Foubert.
L'aliénation par le travail, le rapport capital-travail, le travail rend libre, pourquoi faire aujourd'hui quelque chose que l'on peut faire à quelqu'un d'autre demain, le travail de l'accouchement ou des francs-maçons, le travail sur soi des psychanalystes, de chacun selon ses besoins, chacun ses capacités, etc., etc., etc. Toute formule désuète. Pourquoi dans un monde où seul l'argent permet d'accéder au bien-être de la consommation, faut-il encourager au travail ? Comment peut-on encore parler de la dignité du travail avec des salaires de misère? Pour calmer le jeu, on invente des structures caritatives, les Restos du Cœur, le Secours catholique au populaire, Mère Teresa, la Saint-Vincent de Paul moderne, etc., etc., etc. Je vous le dis. Le travail de soi ne sert à rien. La fortune ne dépend plus du capital productif, mais du capital financier. Ne croyez-vous pas qu'il vaut mieux être riche et bien portant, ce qui vous rend nécessairement beau de surcroît, que pauvre, malade et laid, et surtout travailleur ou chômeur? Les riches ou les puissants n'ont jamais travaillé. Ils ont toujours fait travailler les autres. Les serfs ou les esclaves, les ouvriers, les cadres, les ingénieurs, les artisans et les commerçants, et même les hommes ou les femmes politiques qui organisent la société pour eux. Allons, un peu de courage. Reconnaissons qu'il vaut mieux faire partie d'une élite de puissants que d'une masse de misérables. Le plus amusant dans tout ça, c'est quand on vous dit qu'avec 6 000 euros de revenus par mois en France, vous appartenez aux 10% des plus riches de la société française et qu'en même temps, une dame célèbre, vous faites partie de son groupe, si vous gagnez plus de 6 000 euros par mois, célèbre pour la cosmétique, gagne 700 000 euros par jour. Savez-vous que les 80 fortunes les plus élevées du monde équivalent à l'ensemble du patrimoine, y compris des plus riches, des 20 pays les plus pauvres du monde? Ce monde est profondément injuste, mais que voulez-vous? Si je veux continuer à profiter de tout, d'absolument tout, en marchandisant l'ensemble des éléments matériels, mais surtout des corps et des esprits, il faut que les autres continuent à travailler pour moi, selon mon bon vouloir. Selon que je serai puissant, vous serez misérable. Ne soyez pas triste, votre avenir dépend de moi. Continuez à croire que le travail rend libre et vous ferez de moi le plus heureux des hommes.
Est-ce que je vais gagner au loto européen ce soir?
Décidément, la Belette est vraiment socialiste. Dans l'antre des Belettes, il y a le loup, le renard et la Belette, mais comme il se doit, ils ne sont pas isolés. Une bestiole politique, et quelle bestiole, a accepté de leur tenir compagnie. Elle répond, la bestiole, au nom de Christian Assaf. Il est député de la Nation, ni moi qui plus est. Il fut jeune, il est quarantenaire. Il a été, il est encore. Mais qui est-il vraiment lorsqu'il se met à libaniser? Bon, c'est pour tout ça, revenons au sérieux de la chose et voyons ce que ça donne quand on tente de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, même si ça nous intéresse. Allez, une petite provoscopie pour Christian Assaf. Que reste-t-il d'humanisme dans le socialisme?
Là aussi, hein, c'est une vaste question.
Ah, c'est une bonne question, merci de me l'avoir posée.
Ouais, j'y répondrai plus tard. Non, qu'est-ce qui reste humaniste dans le... Oui, je crois qu'il y a une forme d'éthique dans ce parti. Et c'est pour ça que je juge un peu sévère l'opinion publique aujourd'hui avec François Hollande. Finalement...
Il avait des problèmes gastriques hier soir.
J'ai
cru qu'il allait vomir en direct sur M6.
Mais il y a eu un compromis européen.
Je trouve que voilà ce rapport des politiques à la justice, son rapport au temps, cette déshystérisation de la vie publique française depuis quand même l'arrivée depuis un an et donc avec le départ de Sarkozy, ça c'est profondément, il me semble, socialiste. Et je trouve que finalement, ça correspond assez à ce que les gens attendent, et donc une forme d'humanisme. Après, sur la question de l'éducation, on en parlait, et notamment...
Mais l'éducation, pourquoi est-ce que vous confondez systématiquement, depuis 1932 hein,
donc l'instruction avec l'éducation.
Ouais. C'est le rôle des parents, l'éducation,
oui, mais quand...
normalement.
Oui, normalement, c'est le rôle des parents, mais les parents, maintenant, travaillent, les deux, souvent...
Ah, ils sont aliénés, tout le bazar.
Non, ils ne sont pas aliénés, et les enfants passent, les enfants passent 12 heures par jour dans l'institution scolaire. Donc, l'école ne peut pas se contenter simplement d'instruire.
L'économie a déstructuré la famille, on en a parlé tout à l'heure.
C'est aussi le rôle de l'éducation.
Ou alors, il faudrait rendre l'école facultative, parce qu'elle est nuisible.
Non, je trouve le loup très sévère en la matière. Donc, qu'est-ce qui reste d'humaniste dans le Parti Socialiste? Toutes les valeurs.
J'ai pas dit qu'est-ce qui restait d'humanisme. C'est toi qui le dis. Hein. J'ai dit qu'est-ce qu'il y avait d'humanisme. Donc, ouais, comme quoi, il ne peut plus rester grand-chose. Tu es en train de réfléchir pour ce qui reste.
Non, je crois que, honnêtement, sur les valeurs,
Alors, les valeurs, attends, faut arrêter de me raconter des conneries. C'est Copé là, qui a inventé les valeurs. Ça veut dire quoi, les valeurs?
L'éthique, si tu préfères.
Ah, alors justement, tiens, on va pas la jouer, les pères à la morale. Parcourons plutôt le registre de l'éthique. D'ailleurs, quelle différence faire entre ces deux concepts, la morale et l'éthique? Avec une question, à question Asaf, peut-on avoir une morale sans éthique?
Et vice-versa.
Et réciproquement.
Oui, moi je crois que oui. Je pense que l'éthique, elle s'applique à nos pratiques, et à nos pratiques quotidiennes. C'est-à-dire, c'est dans nos rapports...
Mais quelle différence tu fais? Une définition, vite fait. Allez, la morale, une définition. C'est pas facile, je reconnais.
La morale, c'est quelque chose d'assez dogmatique, on va dire un regroupement de grandes valeurs, mais aussi normative. Il y a ce qui est moral et ce qui ne l'est pas.
Ça, c'est le juriste. Quand l'entend,
c'est philosophique.
Normatif.
Non,
Max Weber explique très bien ça.
Non, et donc, oui, mais il aurait mérité d'être juriste. C'est pour ça que je suis anormal, parce que moi, je n'aime pas les normes.
C'est juste.
Qu'est-ce qui est...
Pour ça, je suis amoral aussi.
Qu'est-ce qui est moral pour l'Église et qui ne l'est pas pour la République?
Ouais.
Voilà. Là, on est sur des... Pour moi, c'est pour ça que la morale, pour moi, elle est tout à fait discutable et contestable. Alors que l'éthique, c'est contextualisé. L'éthique, c'est dans nos pratiques quotidiennes... un certain nombre de valeurs sur lesquelles on peut se retrouver, qui sont le respect de l'autre, qui sont le respect de soi-même, qui sont la transparence, la probité, des choses comme ça, où là, il me semble, en tout cas particulièrement en politique, voilà, il n'y a pas besoin de se raccrocher à des grandes valeurs.
Une morale au-delà du temps et de l'espace.
C'est une morale appliquée. Non, pas du tout, appliquée. Elle n'est pas dogmatique. Parce que la morale, est-ce que ce qui est aujourd'hui moral en Iran l'est pour nous?
C'est ce que c'est la question. Oui.
C'est bien avec l'actualité depuis hier de se poser la question.
C'est rare de rencontrer quelqu'un qui a une éthique. Donc.
Mais moi je pense pas. Moi je pense pas. Moi je pense que non, justement que l'éthique c'est accessible.
Au micro du moins, je veux dire.
Non, mais je pense que moi je suis d'accord avec Christian. Il y a beaucoup plus de gens qui sont raccrochés à une éthique, mais pas forcément une morale.
Donc à cette question, je pense.
On fera un examen à l'entrée.
Je pense qu'il peut y avoir de l'éthique sans morale. Et il peut malheureusement y avoir, il y a souvent de la morale sans éthique.
Malheureusement, je suis entièrement d'accord. Là, c'est rare qu'on soit d'accord quand même. Mais,
c'est rare.
Là.
Quand il s'agit de bouffer du
pain, c'est 100% d'accord sur ce coup-là. Quoi. Bon, on va revenir au travail, si tu veux bien. Travailler pour les autres, c'est quand même faire de la politique. Au sens noble du terme. Alors, au niveau de ta carrière, enfin de ta carrière qui est encore jeune carrière, mais enfin qui a déjà un certain temps, entre cabinet, membre de cabinet, tu as été directeur de cabinet de Georges Frêche notamment, et élu, tu es député de la Nation, entre le directeur de cabinet de Georges Frêche, ou peu importe, et le député, lequel des deux avait le plus de pouvoir?
Bonne question.
Merci de l'avoir posé.
Non, mais
une grande question.
Je me suis jamais posé la question.
Tu devrais.
En ces termes, je pense que je parle sous le contrôle de la Belette. Il se trouve que j'ai eu.
Et oui, la Belette fut chef de cabinet.
La chance. J'ai travaillé sous ses ordres.
Nous croisâmes.
J'ai travaillé sous ses ordres parce que j'étais chargé de mission. Il était chef de cabinet. Je crois qu'il y a à la fois. Des politiques sans pouvoir et il existe des membres de cabinet sans pouvoir. En gros, des suivistes, ce qui n'était pas le cas de la Belette, je ne crois pas qu'il était le mien, c'est-à-dire Quand dans un cabinet, on est là, bien sûr.
Alors oui et non, parce que je comprends pourquoi tu dis ça. Quand tu fus directeur de cabinet de Georges Frêche, oui. Effectivement, a priori, tu avais un pouvoir. Quand tu fus directeur de cabinet d'Hélène Mandrou, a priori, tu n'en avais pas, c'est pour ça que tu t'es cassé. Quoi.
C'est peut-être un peu...
Ouais, je raccourcis, je pédagogise.
C'est
pédagogise.
Parce que, non, honnêtement, quand on est dans un cabinet, c'est pas parce que le pouvoir est supposé fort ou faible que le rôle du cabinet est plus ou moins fort ou faible. C'est pas du tout en ces termes-là. Un membre de cabinet, et j'accepterai que la belette m'apporte la contradiction, c'est pas ça, mais a une double fonction, celle de conseil. De conseil, et là tu peux peser sur les décisions du conseil, et puis c'est aussi celle d'accompagnement et de suivi d'exécution. Ouais, pour une fois que la décision est prise politiquement, on doit s'assurer que ça suit.
Absolument. Un cabinet, c'est une garde prétorienne.
Et donc, si tu exerces ta fonction de conseil... Et tu...
SS en allemand.
Oh, non, pas du tout.
Alors, je déconne.
Non, non, tu déconnes pas. Mais c'est ton côté maurassien qui ressort. Arrête.
Et donc, si la question.
Tellement de ne pas avoir exercé les fonctions que nous avons, Christian et moi, exercées.
Est-ce
que.
Hey, j'ai pas fait d'assez bonnes études.
Sans doute.
Non, mais... Je pense non, que non, nous avions, Jean-Pierre que... et moi, par exemple, nous avions du pouvoir dans le cabinet de Georges Frêche, où nous avons eu à différents moments tout ça. Et qu'aujourd'hui, je suis un élu qui considère qu'il a les pouvoirs. Et donc, après, c'est à moi de me lever, de dire non.
Ah, justement, tu es un élu. Tu es un élu, donc tu travailles pour les autres, pour la nation, pour les autres.
Au nom des autres.
Ouais. Mais en tant que député, le job d'un député, c'est quoi? C'est faire des lois.
C'est plusieurs choses. C'est faire des lois et contrôler l'action du gouvernement.
Voilà. Et bon, mais on va rester sur.
Et représenter le peuple.
En même temps, c'est quand même numéro un, celui de faire des lois. Et travailler pour les autres, est-ce que c'est pas restreindre leur liberté par la loi? Parce qu'à force de faire des lois, une loi dit forcément, t'as pas le droit de. Peu importe le de.
La loi le dit aussi, t'as le droit de.
Non,
la loi ne le dit pas, ça.
Christian a évoqué ça, les normes, c'est justement de définir non pas ce qui est autorisé, mais ce qui est interdit. Ce qui est autorisé, c'est tout ce qui n'est pas interdit.
Oui. La loi, par définition, t'interdit des choses.
Oui, elle interdit.
Même maintenant, interdire de fumer sur les terrasses et tout, que les non-fumeurs, ils nous emmerdent.
En même temps que l'interdit, elle autorise.
Je crois que le vrai problème de Christian, c'est que le gros problème, c'est qu'il dit les députés sont là pour faire des lois et contrôler le gouvernement qui décide de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est un peu ambigu, quand même.
Est-ce que tu crois vraiment qu'un député contrôle le gouvernement?
Non, ce que je crois d'abord...
Non, attends,
je veux répondre à la première question, quand même. Ce que je crois d'abord, c'est que...
Oublie pas la deuxième. Hein.
Un renard libre dans un poulailler libre...
Ah, j'adore cette formule.
C'est quoi? Ça donne quoi?
Ça donne la mort des poulains.
Voilà. Donc
réponse,
ça, c'était pour répondre à la
question. Au renard.
Le capitalisme financier mondialisé.
Et donc, d'où l'importance des lois.
Et qui c'est qui décide des poulains malades, alors? À donner au renard.
C'est la démocratie. C'est justement quand on considère que la protection, le partage est allé trop loin.
Le mieux, c'est que le renard ne rentre pas dans le poulailler. Hein.
Oui, mais qui lui interdit? Qui lui interdit de rentrer dans le poulailler? Donc ça, c'était pour la vertu des lois. Ensuite, la deuxième question, c'était sur... J'ai oublié. C'est l'effet du Sinara, le pichon.
On va la faire autrement. En vertu de quoi un politique, un député, serait-il mieux que les citoyens... Ce dont ces derniers ont vraiment besoin.
Je suis désolé, je n'ai pas cette prétention-là. Moi, je représente le peuple et j'agis en conscience, en connaissance, mais aussi. Et donc, si nous étions guidés par l'idée permanente et absolue que tout ce qu'on le fait, on le fait au nom du peuple en permanence et pour le peuple en permanence, ben alors ça ne servirait à rien de voter. Si on vote, c'est bien aussi parce qu'on doit être sanctionné sur un bilan. Et moi, j'attends qu'au bout des 4 ans, il reste 4 ans, mais parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon élection. C'était il y a un an pile, le 17 juin, où j'étais élu député. Mais donc, il me reste encore 4 ans. Dans 4 ans...
À un jour près, on aurait fumé un pétard ensemble.
Dans 4 ans, j'entends et j'attends que les citoyens me jugent sur l'action, sur justement savoir les lois que j'aurais votées, pas votées, le contrôle que j'aurais fait ou pas. Mais à aucun moment, je n'ai cette... cette folie de croire ou de penser que tous les jours j'agis.
Un député, c'est encore plus que ça. C'est quand même un élu de la nation qui est, c'est un personnage important, quoi. Et je voudrais qu'on parle un peu sur la question politique ici, chez nous, à Montpellier. Bon, Christian Assaf, t'es passé de Fraîche à Mour en passant par Mandrou. C'est quoi ? C'est une tactique ou une stratégie ?
Non, c'est le. D'abord, je suis resté collaborateur de Georges Fraîche un peu moins de 15 ans. Ça, c'est pas rien. Je veux dire, on peut s'arrêter.
Jusqu'au moment où il t'a viré en 2007.
Oui, jusqu'au moment où on s'est séparé, mais c'est assez
j'ai bien dit où il t'a viré en 2007.
Ce qui est assez exceptionnel, c'est le parcours, parce que Georges Fraîche était comme ça. C'est le parcours de Jean-Pierre Foubert, de François Delacroix, de moi-même, de Claude Coulienne. Il allait pour habitude de garder longtemps ses collaborateurs. Ouais, on se souvient peut-être des collaborateurs qu'il a gardés longtemps, mais il n'est pas anodin, il n'était pas impensable que. Moi, je ne veux pas revenir.
T'es passé par Mandrou. Bon, pour des raisons peut-être de politique interne en 2010, etc.
Mais c'est pas
sur
moi.
Ordre de Aubry, bon, etc. Bon.
Mais ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi.
Pour aboutir à Mourou.
Ça n'est pas moi qui ai investi. Non, mais il faut crever l'abcès. Ça n'est pas moi qui ai investi Hélène Mandrou pour partir à la bataille des régionales.
Oh,
ça n'est pas moi.
Tu avais non seulement rien fait contre, mais j'allais presque dire tout fait pour.
Non, pas du tout. J'étais directeur de cabinet d'Hélène Mandrou quand le Parti Socialiste demande à Hélène Mandrou de porter la bannière du parti.
Et pourquoi tu lui as pas dit, attends, mais t'es folle, là, où tu vas là ?
D'abord, ça personne ne dit que je ne l'ai pas dit. Et deuxièmement, à mon âme et conscience, le directeur de cabinet que j'étais, alors qu'Hélène Mandrou était investie au mois de février pour les élections qu'il y avait en mars, Je pouvais pas, là. Moralement.
On est d'accord.
Ensuite, il y a eu un parcours de vie politique. On s'est séparé avec Hélène Mandrou parce que j'étais candidat aux législatives et que la loi m'imposait de démissionner de mon poste de directeur de cabinet un an avant. C'est ce que j'ai fait. Quant à Georges Fraîche, et lui et moi, nous sommes expliqués sur les raisons de notre séparation. Elles ont été rendues publiques. Vous ne m'entendrez jamais dire publiquement un mot négatif sur Fraîche. D'abord parce qu'il ne m'en vient pas comme ça. Je pense que, comme tous les hommes politiques, il a été victime de l'usure du pouvoir, un certain nombre de choses. Ça restera, d'abord pour moi, un grand formateur.
Un grand patron, pour
cette région, un des hommes politiques, je crois qu'on n'est pas prêt de revoir de si tôt. Donc pour moi, je n'ai pas le sentiment
qu'on n'est pas prêt de revoir de si tôt. Donc moi, c'est quoi c'est,
Non, moi j'entends ce
que c'est un demi-Fraîche, un Georges Fraîche.
Il n'y aura plus de Georges Fraîche en Languedoc-Roussillon. Donc il faut qu'il y ait une nouvelle génération sur d'autres bases, éventuellement d'ailleurs qui s'appuie sur le travail.
Une nouvelle génération. Une nouvelle génération.
Je te rappelle, cher ami Maurassien, que Georges Fraîche est mort le 24 octobre 2010. Et que donc, il faudrait que le monde politique, aussi bien à gauche qu'à droite,
Hélène Mandrou était morte quelques mois avant.
Se rende compte qu'effectivement, il faut tenir compte de cette réalité et construire autre chose, éventuellement.
Et autrement, dis-nous-le autrement.
Je sais pas.
L'adverbe,
parce qu'il s'est passé 3 ans.
L'adverbe favori des socialistes.
Tous ceux qui s'inscriront uniquement et exclusivement dans l'héritage de Georges Fraîche apparaîtront au mieux comme de mauvais usurpateurs, au pire comme des bedouins. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Pierre. C'est-à-dire, Jean-Pierre dit il faut accepter d'être différent, de passer à autre chose, tout en étant fidèle à une partie de l'œuvre qui nous a léguée. Ça, c'est une réalité.
Alors, juste pour rectifier le loup, je rappelle que le mot à la mode, c'est pas autrement, c'est maintenant.
C'est juste une
petite remarque comme ça.
Ça, c'est beaucoup d'historiens qui ont oublié
l'actualité. Je pense que le Pic Saint-Loup fait de l'effet.
Moi, je voudrais qu'on demande.
Ouais, c'est comme intéressant, ça fait tout le temps.
Je voudrais qu'on demande à notre député et socialiste, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui va se dire mercredi 19 juin, donc dans 2 jours, à Solferino.
Non, et d'ailleurs, je n'ai pas, pour répondre à Jean-Pierre Foubert, je n'ai pas les résultats du loto de mercredi prochain. Donc
mais est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer?
Non, mais
ce que je peux dire.
Oui, je peux dire qu'il va. Je sais ce qui. Enfin, je ne sais de mercredi
pas ce qui
prochain.
Va se passer, mais ce qui va se dire.
Ce qui va se dire, on va se retourner vers les trois candidats, leur demandant quel est le.
Le on étant un pronom indéfini malhonnête.
Non, c'est-à-dire, c'était clairement dit.
Les participants.
Il y a la direction nationale du parti qui sera là, les trois candidats, et les députés, les grands élus des grands exécutifs. Bon. Donc très bien. Les trois candidats doivent présenter un programme de rassemblement pour éviter ou faire en sorte qu'à partir de là, nous aurons à nous prononcer là-dessus. Soit les trois propositions, on en a vu qui sortaient dans la presse de ci, de là.
Bah hier, Jean-Pierre Moore
n'arrive pas à nous
qui dit, moi, je, de toute façon, je m'en fous, moi, j'y vais tout seul. J'y vais tout seul et je rassemble. Bon.
Mais on peut pas enlever à Jean-Pierre Moore le fait qu'il rassemble.
Mais qu'il est tout seul.
Non, mais aujourd'hui, il ne rassemble pas les deux autres candidats, mais il rassemble un certain nombre d'élus, de grands élus autour de lui.
Ah, les grands élus, oui. Après, c'est... Si ma mémoire est bonne, en démocratie, ce n'est pas les grands élus qui votent,
les électeurs. On n'est pas devant une élection citoyenne. Là, on est sur la désignation de notre candidat. C'est ça qui se décide.
Le but, c'est de gagner ou de perdre ?
Non, mais le but, c'est de gagner.
Ah bon,
Donc, je dis...
Je m'interroge.
Non, mais je dis... Une des conditions, il y en aura bien d'autres, une des conditions pour être désigné premier des socialistes, c'est d'abord de rassembler.
Bon, alors, attends,
c'est-à-dire pourquoi alors... Pour éviter des primaires, qu'elles soient citoyennes ou militantes
Non. Moi, que les primaires...
Qu'est-ce que ça serait les primaires?
Moi, je considère que les primaires ouvertes, elles auraient la chance... de donner une légitimité incontestable à notre
Parti socialiste. Et pourquoi pas avoir fait un sondage directement avec qui préférez-vous, Mandrou, Moore ou Sorel comme tête de liste, plutôt que d'avoir posé cette question qui faisait résultat devait être le même.
Et puisque c'est plus la question, on peut poser la question à Christian Assaf, qui va quand même être un des décideurs. Quelle serait, selon toi, la meilleure des hypothèses?
Non, mais moi, je considère quoi?
Tu as trois possibilités. Mandrou, Sorel ou Moore, quelle serait la meilleure des hypothèses?
Moi, je l'ai dit publiquement, mais c'est pas parce que je considère que on a trois talents, au moins, et il y en a d'autres. On me parle souvent, m'oppose à Michael Delafosse. Michael Delafosse, c'est un vrai talent.
Oui,
Est-ce que ce serait
la meilleure des hypothèses?
Il n'est pas candidat parce qu'on n'a pas encore décidé de primaire ouverte, mais s'il y a des primaires ouvertes, ça va s'ouvrir nécessairement peut-être à d'autres candidats, y compris éventuellement les écologistes, ce qui fait que si tu as 10 candidats candidature PS, tu peux très bien avoir Jean-Louis Romégas, par exemple, s'il est candidat, ou d'autres, arriver en tête.
Anne-Yvonne Lodin nous a dit la semaine dernière, à l'antenne, que encore de primaire ouverte, elle était candidate. Alors, est-ce que Christian Assaf nous a dit qu'elle l'était encore de primaire ouverte?
Oui, comme André Vézinet, qui a démenti dans la semaine.
Question à Christian Assaf, est-ce que t'es candidat encore de primaire ouverte?
Christian Assaf, il a fait le choix aujourd'hui, parce que c'est un choix que j'ai fait en conscience, voilà. Je considère que Jean-Pierre Moore est celui aujourd'hui qui rassemble le mieux la famille socialiste. Voilà, c'est mon avis. Et d'ailleurs, ce qui lui donne des responsabilités, et notamment celle de faire en sorte qu'aucun candidat à la candidature ne soit laissé au bord du chemin. Et je le lui ai dit. Donc, s'il y a des primaires ouvertes, je saurai... aux côtés de Jean-Pierre Moore pour mener la bataille de ces primaires ouvertes. S'il y a des primaires fermées, je serai aux côtés de Jean-Pierre Moore pour mener la bataille au sein des militants. Et ensuite, pour le reste, moi je suis comme toi, Jean-Pierre. Je considère que la primaire ouverte, c'est un vrai risque de voir aujourd'hui un candidat vert arriver devant le morcellement des candidatures socialistes.
Moi, j'ai juste une petite question complémentaire. Si on admet que Hélène Mandrou a fait 11% des voix aux dernières régionales, qui est un score sur son nom, est-ce qu'on ne prend pas un risque qu'elle soit éliminée? Il y a un combat, elle est éliminée, et qu'une partie de cet électorat qui lui était très fidèle, puisque en fait il n'a pas voulu voter au Georges Frêche, vienne conforter l'abstention, ce qui permettrait effectivement une victoire de la droite, voire du Front National à Montpellier, ce qui serait assez paradoxal. Il ne faut pas lui faire une sortie par le haut.
Très rapidement,
c'est de la responsabilité de Jean-Pierre Moore aujourd'hui de proposer à Hélène Mandrou et à Philippe Sorel la place qu'il mérite dans son dispositif.
Bon, il n'a pas dit une porte de sortie parce qu'il n'a pas de morale, mais il a une éthique. Ça, il nous l'a bien expliqué. Quoi qu'il en soit, remerciements infinis mais aussi à notre député Christian Assaf, qui s'est prêté à cette promoscopie. Il le sait, il est ici chez nous, enfin, un peu chez lui, je me comprends, parce qu'il pourrait bien devenir un de nos conseillers éditoriaux, et le remercierait.
On remercie aussi les vignerons.
Quoi qu'il en soit, lundi prochain, le Loup, le Renard et la Belette vous offrent la dernière de la saison. Elle aura lieu sur la terrasse du restaurant L'Orchis, place Saint-Roch, à Montpellier. Une émission en direct et en public de 17 à 22 heures avec un groupe de jazz qui nous vient du JAM et répond au nom de Comptoir des Fous, avec deux artistes de grande renommée internationale qui effectueront une performance en réalisant un grand tableau sur le thème de Marianne. Ils se nomment Patrice Palacio et Xavier Longueras, avec encore un sculpteur, Mohamed Green, qui réalisera sur place un plâtre du logo de Provoscopie ainsi qu'une Marianne en bronze. Avec enfin plusieurs producteurs de vins d'ici pour que vous les dégustiez. Les vins, pas les producteurs. À écouter sur le 93.9, mieux à voir Place Saint-Roch à Montpellier.
One, two, three, check. C'est okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.